les textes, Dieu vous a vraiment révélé, tous, sans exception, qui ce sont des enseignements, ce sont des révélations très très riches, en tout cas pour tout le monde. Mais la parole de Dieu, comme je vous ai dit, a été épurée 7 fois. Donc on peut toujours avancer, encore creuser dans la profondeur pour comprendre vraiment encore la pensée de Dieu. Bien que cela ait été dit, c'est la même chose, mais on peut les comprendre encore dans un autre sens, parce que le but, c'est cela. Donc nous nous trouvons devant un texte que notre sœur nous a envoyé. J'ai eu le temps de lire ça ce soir, je connais déjà l'histoire parce que quand on parle de Marie et Marthe, ce sont deux sœurs que nous connaissons bien qui sont les sœurs de Lazare, qui est, Jésus avait ressuscité. Donc nous le savons bien qu'ils sont du village de Béthanie, donc c'est là où Jésus a fait le miracle, où il a ressuscité Lazare. Nous connaissons bien les récits. C'est une famille que Jésus aimait bien, qu'il a toujours fréquenté parce qu'il était devenu vraiment, c'était l'ami du frère de ces deux sœurs-là, donc Jésus. Alors, il est passé comme par hasard qu'il est venu. C'était une occasion pour eux, n'est-ce pas, de parler à Jésus, de toucher à Jésus, de l'entendre encore d'une manière un peu privée. Pas quand il prêche dans la foule, où il est devant 5 000 personnes, 7 000 personnes ou 4 000 personnes. On n'a pas peut-être le temps de lui poser des questions et ceci, cela. Mais là, c'était un moment d'intimité personnelle parce qu'il arrive chez lui. Donc, il peut manger, bavarder et poser des questions. Et là, on n'aura pas d'obstacle parce que tu es en face du maître. Tu es en face du Créateur, tu es en face de Jésus. Il n'est pas allé ailleurs, mais il est entré chez toi. C'est une occasion. C'est un privilège qu'ils avaient eu, que beaucoup n'avaient pas eu ce privilège. Comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, mes frères, pendant que Jésus toque à ta porte, pendant que Jésus frappe, la Bible dit, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Donc, si tu as l'occasion d'écouter la parole, la vraie parole, la vraie doctrine qui change, qui donne la vie, où il n'y a pas d'obstacle, mon bien-aimé, ne laisse pas passer cette occasion-là. Pas cette occasion-là, c'est une grâce que toi tu as trouvée devant Dieu. Comme le voleur, c'est la croix qui a trouvé grâce devant Dieu. En croyant en Jésus, qu'il était le Fils, il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il lui a dit, carrément, au même moment, parce qu'il était à côté de Jésus qu'il a cru, il a dit, en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui dans les paradis. Il a trouvé grâce. Mais devant ces deux sœurs dans leur maison, Jésus se retrouve devant deux personnages. Deux sœurs, deux ambitions, des projets. Mais tous voulant aimer Dieu, tous voulant aussi servir Dieu, mais chacun à sa manière. Mais quelle est la manière qui pouvait plaire maintenant à Dieu, comme aujourd'hui quand nous voulons servir Dieu? Quelle est la vraie manière que nous pouvons utiliser pour servir Dieu, qui puisse plaire à Dieu? Parce qu'on ne doit pas plaire à un homme, on doit plaire à Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare, maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair comme appui. Donc, il ne faut pas vouloir plaire à ton pasteur. Moi, je n'aime pas que je puisse plaire aux gens. Non, 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 que je puisse m'intéresser. Non, 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 non. Ne fais pas l'œuvre de Dieu quand tu es chez moi à l'église ou quelqu'un me connaît pour me plaire. Non. Il faut plaire à Dieu parce que moi, je suis un être humain, je mourrai. Ce n'est pas moi qui t'ai, c'est pas par moi que tu as réussi la vie. Mais il faut plaire à Dieu à travers tes actes. À travers la parole que tu as reçue, c'est comme ça qu'il faut plaire à Dieu. On ne plaît pas à un homme. Si tu vas commencer à servir Dieu parce que tu veux plaire à un homme, tu es très loin. Très, très loin. C'est bien, la Bible déclare, on doit obéir à nos chefs spirituels. Oui, bien sûr, on obéit, mais pas plaire. Parce que c'est lui, je dois faire, parce qu'il me trouve bien. Non, il faut plaire à Dieu. Donc, Jésus était là avec deux sœurs. Mais Jésus avait eu deux mots. Une parole à la première et une deuxième parole à la seconde. C'est-à-dire, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la part qui ne lui sera jamais ôtée. C'est-à-dire, deux paroles que nous devons aujourd'hui exploiter. Vous voyez, nous devons comprendre que nous sommes aujourd'hui, en tant que chrétiens, des esprits qui habitent dans un corps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que nous sommes des esprits qui habitent dans un corps. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, donc mon âme habite dans un corps. Et si je dois servir Dieu, je dois servir Dieu en esprit. C'est pour ça que la Bible déclare, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande et recherche. Comment écouter Jésus? Jésus ne se reproche, ne reproche pas à Marthe son attitude, mais son agitation qui la détourne de l'essentiel. Une fois Jésus reparti, Marthe ne se souviendra que de son propre souci, de maîtresse de maison, de sa cuisine, mais Marie, sa sœur, est donnée en exemple car elle saisit les instants privilégiés du passage de Jésus dans leur maison pour s'enrichir de cet enseignement direct, la meilleure part. Marie a choisi les instants privilégiés. C'est-à-dire que les moments privilégiés que nous avons. Vous voyez les privilèges que nous avons aujourd'hui d'entendre la parole. Les privilèges que nous avons aujourd'hui d'être enseignés gratuitement. Gratuitement. Comme nous avons vu la fois passée, nous étions enseignés pendant 2 ans, certains 2 ans et demi, je ne sais pas, 3 ans, l'apôtre Fritz qui était là, qui nous a enseigné plusieurs fois. Mon bien-aimé, beaucoup ont écouté la parole, les vrais messages. Maintenant, nous devons nous poser à cette question-là, les privilèges que nous avons eus, parce que ça nous parle aujourd'hui, ces contextes-là, nous pouvons les placer dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Les privilèges que nous avons eus d'écouter les messages. Et on se demande aujourd'hui, est-ce que moi j'avais reçu la vraie part ou j'avais reçu la part simplement du monde? Est-ce que j'avais reçu l'essentiel ou j'avais reçu simplement les accessoires? Parce que ce sont des occasions qui ne vont pas se présenter chaque fois. Il y aura un moment où ces choses, où cette grâce-là va s'arrêter. Parce que ça arrive une fois. Et quand ça arrive, il faut en profiter pour grandir et faire l'œuvre et être agréable devant Dieu. Et être un homme ou une femme, un chrétien spirituel. Et pour grandir spirituellement, il faut écouter la parole. Parce que nous sommes des esprits dans un corps. Et ces esprits-là sont nourris par... Notre esprit est nourri, notre âme est nourrie par la parole. C'est pour cela que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Voilà alors que Marthe et Marie se trouvent... sont comme deux sœurs diamétralement, donc opposées franchement, avec leurs ambitions, mais dans une même maison et devant le Seigneur. Et chacun voulait servir Dieu en sa manière. L'une a choisi d'abord aller servir Dieu parce qu'il voulait s'occuper des choses, la cuisine. Non, il faut que le Seigneur mange, il faut que le Seigneur puisse faire ceci. Et elle était agitée. Son agitation des choses... Elle était inquiète, elle était bouleversée, elle n'était pas tranquille, elle n'avait pas la paix. Bien qu'il faisait ça pour le Seigneur. En regardant bien le contexte, on peut comprendre qu'au moins elle n'avait pas tort de nourrir Jésus, de préparer pour Jésus. Elle ne le faisait pas pour un homme, mais c'est pour Jésus. Mais est-ce que c'est l'essentiel de ce que, pourquoi Jésus est arrivé dans leur maison? La Bible déclare, ni le manger, ni à boire ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Le manger et le boire n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Donc aujourd'hui, si nous ne pouvons pas profiter des occasions, des moments opportuns que Dieu nous présente pour essayer de grandir et plaire à Dieu selon notre comportement, selon notre attitude, selon notre façon de parler et d'agir pour l'œuvre du Seigneur, mon bien-aimé, nous sommes en train de nous éloigner, nous sommes en train de faire un travail vide, un corvée. Nous sommes en train de faire un travail auquel nous ne bénéficierons même pas un jour. Parce que beaucoup, comme je viens de dire, Marthe qui a choisi être à la cuisine, ce qui était pour lui les intérêts du monde, ce qui était pour elle, les intérêts du monde, ce qui était pour elle les intérêts de la chair. Parce que Marthe a voulu nourrir la chair de Jésus et ce qui était là. On va lui préparer un bon gâteau, elle doit faire ceci, ceci, cela. Mais ce n'est pas là. La vraie nourriture, c'est la parole Je venais d'écouter la sœur, une sœur qui nous a dit que l'homme ne vit pas seulement des pains, mais de la toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cela d'abord à quoi nous devons faire. Nous devons aspirer d'abord. Mais ce n'est pas mal ou bien quand même de nourrir Jésus. Mais Jésus lui a fait comprendre qu'il faut faire la part des choses dans le monde. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont agitées et qui se sont abandonnées à cause, qui sont devenues esclaves, qui sont agitées à cause des problèmes qui les embêtent, qui les animent, des problèmes qui sont devenus condamnés. Et sans cela, donc, ils ne trouvent jamais la paix. Ils ne dorment pas bien. La nuit, ils pleurent. Ils sentent être étouffés parce qu'il y a ceci, je dois demain ceci. Un programme bien, bien, bien établi pour les choses du monde. Mais le programme pour Dieu, il n'a pas encore établi. Et ce programme pour Dieu, il les pousse au calendrier grec. Où arriverons-nous à ce moment-là? Donc, celui qui s'occupe d'abord de la chair trouvera sa part dans la chair. Mais celui qui s'occupe de l'esprit trouvera aussi sa part dans l'esprit. C'est comme ça qu'on sait différencier maintenant un chrétien spirituel et un chrétien charnel. Un homme animal et un homme spirituel. Parce qu'à ce moment-là, si tu te soucies simplement de ton propre corps ou te soucies de ton propre corps, oui, il y a aussi une part de d'hospitalité. C'est bien bon pour cela. Mais au moment où Jésus est venu, c'est-à-dire qu'il faut simplement faire la part des choses. C'était ça le message de Jésus. Les gens qui comprennent et qui ont compris, on peut arriver à facilement distinguer ce qui est bien, ce qui est essentiel et ce qui est vil. Ce qui est bon et ce qui est mauvais aussi. Ce qui peut nous faire grandir, tout comme ce qui peut nous faire grandir, qui peut nous faire décroître. Donc, à ce moment-là, devant ces choix-là, l'homme spirituel comprend facilement et prend directement la bonne décision de prendre ce qui peut plus sauver d'abord son âme, et pas ce qui peut sauver son corps. Parce que si tu veux sauver ton corps, tu veux sauver ta vie en nourrissant le corps, eh bien, le corps te trahira un jour. Le corps, tu peux le nourrir, le corps, tu peux l'habiller, le corps, tu peux lui donner toutes sortes de biens qu'il peut te proposer tous les jours. Tu peux le faire boire. Il peut t'amener en boîte, il peut te faire déshabiller, il peut t'amener quelque part où tu n'as même pas envie d'y aller et que tu obéis à ce corps pour le nourrir, pour lui donner sa part qui lui revient. Et à ce moment-là, et que tu obéis à ce corps-là, sache-le bien que ce corps t'amènera un jour à la mort, sûrement. Et ce corps-là t'amènera sûrement au péché, sûrement. Mais si tu obéis à l'esprit, à la part de l'esprit qui lui revient, qui doit nous vivifier et qui doit nous rendre capables de plaire à Dieu, cette part-là, on ne la trouve nulle part, c'est dans la parole. Et cette parole-là, c'est Christ. Et c'est celle qui est prononcée par Jésus. Alors, on se pose la question. Sans l'écoute régulière, du Seigneur, notre attitude dans les services a tendance à dégénérer. Ça, c'est juste. Ce que le Seigneur peut nous rapporter dépasse infiniment ce que nous pouvons lui donner. Rien ne peut nous enlever ce que nous recevons du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous recevons de la part du Seigneur, et si cette parole est tombée dans la bonne terre, cette parole-là doit produire des fruits. La Bible déclare un grain 30, un grain 60 et 100. C'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre que oui, tu as reçu la bonne part. La bonne part se traduit et se manifeste par les fruits de l'esprit dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'à 22. Mais celui qui a saisi la mauvaise part là, la mauvaise part qui glorifie le corps, qui glorifie la chair, elle ne va pas produire des fruits. Alors cela nous ramène aussi, n'est-ce pas, à la parabole du semeur, où le semeur a semé la semence, d'autres semences sont tombées sur le chemin, les gens sont venus, ils ont tout mangé, d'autres semences sont tombées sur le lieu pierreux, mais ils n'ont pas pu enraciner la racine parce que l'endroit était pierreux, le soleil est venu, il a brûlé, et que le vent a soufflé, ça a complètement détruit la semence, la semence. Il y a d'autres semences qui sont tombées dans une bonne terre, et la terre là, ça a bien poussé, mais il y avait des ronces. Ça avait été étouffé, ça ne pouvait pas produire des fruits. Mais la semence qui est tombée dans une très bonne terre, cette semence-là a donné des fruits, et un grain, 50, 50, 30, 60, 100. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre que celui-là avait vraiment réussi la bonne part, a fait vraiment la bonne part, a fait les bons choix. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à mieux comprendre. Ces deux sœurs-là, ces deux personnages, deux attitudes, deux façons de comprendre la parole, deux personnages qu'aujourd'hui qui représentent les chrétiens d'aujourd'hui, les fidèles d'aujourd'hui qui sont dans toutes les églises, qui peuplent dans les églises. Ces fidèles-là, qui aujourd'hui, on les rencontre partout, mais ne savent pas faire le choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de ce qu'on appelle l'idolâtrie, le culte de la personnalité dans les églises, qui est plutôt le culte rendu à Dieu. Et c'est cela qui nous amène encore, bien-aimés, à rentrer encore dans un certain obscurantisme de la foi. Qu'à tel point que nous ne savons plus comprendre la parole de Dieu, l'essentiel de notre vie, de ce que le Seigneur nous apporte, parce que le Seigneur est avec nous, il est dans nous, dans notre vie. Jésus est dans notre vie. Jésus est dans notre vie. Jésus est avec nous, il n'est pas loin. Il nous parle, il nous prêche, il nous enseigne, il nous révèle par des prophéties, par des visions, par des songes, par des paroles de connaissance et par des messages divers partout. Et nous avons ces occasions-là, mais nous laissons passer ces occasions-là, mes bien-aimés. C'est-à-dire que c'est lui qui comprend, mes bien-aimés, ces choses-là, sa façon de croissance, sa croissance ne durera pas longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il va chercher à comprendre le but de la visite du Seigneur dans sa propre maison. Le Seigneur est venu en esprit maintenant. Il habite avec nous en esprit à travers le Saint-Esprit. Et c'est le moment que nous devons chercher à comprendre et à vivre sa gloire et sa grandeur et faire le choix. Faire le choix. Le choix de notre vie dépend de notre position que nous occupons maintenant dans le monde. Si tu veux servir le monde, tu sers le monde. Si tu veux servir Jésus, tu sers Jésus. Car la Bible déclare, celui qui perd sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi la prouvera, dit Jésus. Donc si nous voulons servir Dieu, à qui as-tu donné ta vie? Ai-je envie d'écouter le Seigneur? Suis-je trop occupé pour écouter le Seigneur? Ou mon service est-il les prolongations de mon écoute? Ou quel est le changement que le Seigneur m'invite-t-il à apporter mon emploi? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Parce que je dois servir Dieu. Je dois servir le Seigneur d'une manière charnelle. Je veux dire d'une manière charnelle. Parce que je m'occupe de telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et on abandonne ce qui est par ce qui peut nourrir, qui peut sauver ton âme. C'est comme ça, au départ, je vous ai dit que nous sommes des esprits qui habitent dans un corps. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'arrive pas à comprendre cela. Parce que je pense que nous sommes surtout aveuglés. Nous sommes, beaucoup de chrétiens sont aveuglés par les choses de ce monde. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir aussi. Il y a un temps pour contempler la gloire, il y a un temps aussi pour chercher la gloire de Dieu. Il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour rabiboucher encore. Donc c'est le temps que Dieu nous a donné, vous et moi, et que nous pouvons écouter la part, notre part, qui pourra nous donner la vie, la vie. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Vous savez que les corps d'un bébé est construit par le corps des adultes. Je vous explique. Pour qu'un bébé naisse, il faut que deux adultes se mettent ensemble pour que ce corps-là puisse vivre, soit né. Deux adultes, pas des bébés. Donc deux bébés, ils ne peuvent pas donner naissance à un corps. Mais deux adultes donnent naissance à un corps. Comme les esprits les esprits sont nés, sont guidés par des esprits supérieurs. C'est-à-dire quoi? Pour des personnages qui viennent vers le Seigneur, qui ont de l'expérience, qui ont l'expérience avec le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui encadrent et qui montrent le chemin pour dire que ces esprits-là doivent être soumis à l'esprit supérieur qui est Christ. Et l'esprit supérieur qui est Christ, c'est cet esprit-là qui nous donne la vie. Cet esprit-là, quand il est en nous, il nous donne la vie. Et c'est cet esprit-là qui est en nous, qui nous dit qui est le Saint-Esprit. Alors, une fois de plus, le Seigneur nous rappelle à nager contre le courant. C'est vrai. Parce que dans ce monde que nous sommes en train de vivre, dans cette vie que nous sommes en train de vivre, nous devons mettre les choses du monde à part. Ce n'est pas dit qu'il faut abandonner le travail. Ce n'est pas dit qu'il faut abandonner je ne sais pas qui que ce soit, mais donner plus d'importance des choses matérielles que les choses spirituelles, que les choses de Dieu. Quand nous commençons à donner plus de l'importance aux choses matérielles, nous pratiquons ce qu'on appelle l'idolâtrie avec Dieu. Or, Dieu n'aime pas les idolâtres. Et quand Dieu commence à voir que ses enfants commencent à pratiquer l'idolâtrie, ça attire la colère de Dieu. Nous devons aimer Dieu de toute notre force, de notre âme et de notre intelligence. On décide tout. D'abord, les premiers commandements. Et quand on l'aime, on va chercher à voir ce qu'il a. Parce que le moment où Jésus a visité Marthe, il allait passer et il ne revenait plus jamais dans cette maison-là. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il avait visité cette maison-là. Bien qu'ils étaient là souvent en commun, hein, ensemble, mais ils ne pouvaient pas revenir tout le temps. Donc quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne l'occasion, mes frères et sœurs, que nous ne soyons pas aveuglés par des tâches vaines, par des opportunités vaines qui n'amènent à rien, qui peuvent nous induire des fois à la perdition, qui peuvent nous amener quelque part où nous n'avons pas la vie. Comment voulez-vous quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ et puis reste toujours le même? La Bible est bien claire là-dessus. Si tu as rencontré Jésus-Christ, toutes choses changent. 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous sommes toujours des bébés spirituels. Mais il y a un problème. C'est le problème que Jésus est allé traiter dans la maison de Marthe. Mais celui qui a compris ça, c'est Marie. Parce que Marie a choisi d'écouter. Et cette part-là qu'elle avait reçue lui a fait grandir. Lui a donné la victoire dans les choses qu'il allait venir. Et Marthe, qui était agitée dans les choses du monde, après qu'on ait mangé cela, à quoi ça nous amène? Le corps était satisfait. Après quelques deux, trois heures, le corps encore a eu faim. Mais Marthe n'avait pas eu faim parce qu'il avait mangé une nourriture qui ne sera jamais enlevée. Une nourriture qui était en elle, qui lui a donné la vie. Et cette vie-là, c'est celle que nous cherchons aujourd'hui. Cette occasion-là que nous cherchons, c'est cette occasion que toi et moi nous avons. Mais il est très difficile que les gens puissent comprendre encore. Pour les messages, par exemple, qu'on nous a livré dans ces récits de Marie et Marthe, le monde comprendra ça d'une autre manière. Mais au contraire, ça nous concerne. Nos préoccupations, nos ambitions, nos affaires, comme disait notre sœur qui a dit qu'à un moment, il a mis halt. Ça, c'est comme ça. Il a cherché la bonne part, non? Il a dit qu'il était trop occupé, qu'il voyait que les affaires prenaient plus de place dans sa vie que la parole. Elle-même, en elle-même, elle a dit stop. Les affaires, tu ne dois pas dominer ma vie. L'argent ne m'amènera nulle part. L'homme n'est nu, une mère nue. Quel est l'intérêt? Tirons-nous sous le soleil après avoir travaillé depuis le matin jusqu'au soir? Et à la retraite, qu'est-ce que nous avons comme intérêt? Mais les gens courent toujours derrière ces choses-là, derrière les plaisirs du monde. Et ces plaisirs-là nous amèneront où? Ça nous amènera nulle part. Mais si nous cherchons vraiment la vraie part que le monde ne pourra nous enlever, mais bien aimé, cette part-là nous donnera la vie et la vie éternelle en Jésus. Et nous serons de ce qu'on appelle les bien-aimés, les élus de Dieu. Mes frères, c'est le moment quand Jésus toque à notre porte, que nous soyons prêts à lui ouvrir la porte pour que nous puissions, qu'il puisse demeurer en nous, nous en lui, et nous serons les vrais serviteurs et les vrais servantes de Dieu. Maintenant, nous devons nous poser la question. Depuis que nous avons reçu Jésus-Christ, moi aussi je me pose la question. Vous voyez, j'ai toujours dit moi, la peur que j'ai toujours eue, la peur qui me hante tous les jours, ce n'est pas d'avoir du manque de matériel, ce n'est pas ça. La peur qui me hante, c'est toujours de ne pas être capable de remplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Voilà pourquoi j'ai fourni des efforts jusqu'à tel point que je dois être à la hauteur. Parce que si je ne suis pas à la hauteur de ce que le Seigneur, la part que moi j'ai réussi, la part du Seigneur, le jour du jugement, qu'est-ce que le Seigneur me dira? Je t'ai beaucoup donné, mais tu n'as pas été capable. Alors nous revenons sur la parabole du talent. Si Dieu t'a donné une mission et que tu n'as pas été capable de remplir cette mission-là, le sort sera quoi? Il faut nous poser des questions. Maintenant, si nous avons grandi dans la parole, dites-vous, moi j'ai toujours demandé, dites-vous et posez-vous la question, combien d'âmes as-tu ramené vers le Seigneur depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur sauveur? Si tu as mangé la nourriture solide, combien d'âmes as-tu ramené vers le Seigneur que tu as prêché dans la rue, dans ta famille, parmi tes amis, à qui tu as dit, le Seigneur t'aime, voilà, viens vers le Seigneur. Par toi, tu as sauvé des gens. Combien d'âmes? C'est une question qui me hante. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je ne suis pas encore arrivé. Bien qu'il avait toute la révélation, mais il n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que nous devons avancer encore et encore. Le peu, si tu as 10 âmes, si tu as une église, il faut avancer encore plus. On ne doit pas se limiter simplement sur un rayon de 5 km, 10 km. Nous devons prêcher les nations. Nous devons prêcher le monde. Le monde entier doit nous entendre pour annoncer l'évangile du royaume qui précédera l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cet évangile qu'on a besoin aujourd'hui dans le monde. Si cet évangile n'est pas prêché, où iront ces âmes-là qui se perdent au jour le jour? Qui sont bloqués dans les prisons, dans les hérésies, dans les églises, où il y a les fausses doctrines, où on vous parle de l'argent, on vous parle, je ne sais pas de quoi que ce soit. Mais c'est Christ qui doit être prêché, comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Galates, chapitre verset 1er, que si un ange ou un homme vous apportait un autre évangile que celui que je vous ai apporté, qu'il soit anathème. Mais beaucoup sont devenus aveugles dans ce monde. Ils sont conduits aussi par des aveugles. Je ne dis pas que moi je suis le meilleur. Nous devons nous forcer à être capables. C'est-à-dire quoi? Si nous avons reçu la vraie part, le but pour lequel Dieu nous a appelés, c'est de sauver des âmes. Point barre. Ce n'est pas avoir des Mercedes, ce n'est pas avoir des Porsche, ce n'est pas avoir je ne sais pas de quoi. Si cela vient, oui, c'est bien bon. Nous allons utiliser ça pour l'évangile. Mais bien, mon argent, ma voiture, ma famille, c'est pour l'évangile. Et pas pour moi-même. Ça ne doit pas servir mon corps pour nourrir mon corps. Ça, c'est rien. Toute chose, chaque chose a son temps. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse.